des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Elsie Marc-André, salut.
Bonjour.
Allô.
Bon, Marc-André, la fameuse escouade Centaure de Geneviève Guilbeault, on en pense quoi?
Ben, je pense que c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Faut mettre des escouades en place pour lutter le crime organisé. Ce qu'on voit aussi ce matin, c'est qu'il y a déjà des tentatives similaires qui ont été faites dans le passé. Et ce que les gens nous disent dans le milieu, c'est écrit dans différents articles, dans les médias, c'est que ça a plus ou moins marché dans le passé. Mais là, on sentait Madame Guilbeault, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, tu sais, bien entourée, beaucoup de corps policiers différemment. Oui, il y a de l'argent, mais vraiment que oui, il faut contrôler les armes à feu, mais également faut s'attaquer au crime organisé. Donc, ils vont vraiment, tu sais, genre, vous allez nous trouver sur votre chemin. Mmh. Fait que je pense que c'est un message qui était clair, qui était là. Je pense que ça vaut la peine que tout le monde là, tu sais, pousse dans la même direction. Pour vraiment lutter contre ça, on voit ce qui se passe à Montréal, on voit ce qui se passe à Toronto, dans les grandes villes, des tueries qui n'ont pas sa place, des gens règlent leur compte parce qu'ils ont des questions de territoire pour différentes activités illicites. Mmh. Donc, je pense que c'est important que le gouvernement du Québec arrive. Et Mme Guilbeault, dans cette situation-là, elle est excellente, elle maîtrise bien.
Ouais.
C'est l'art verbal. Donc, vraiment, là, je pense qu'elle a lancé un message fort. Et là, par la suite, c'est après ça doit voir les actions. Et d'avoir aussi les résultats, là, parce que
oui,
ça va en prendre.
Elle était avec Benoît Dutrisac tantôt. Madame Guilbeault, elle expliquait, là, justement, que c'était un investissement important. 90 millions de dollars, 107 nouvelles ressources, dont 87 policiers. Ce sont des chiffres qui sont impressionnants, Elsie, mais est-ce que c'est assez? Parce que ce qu'on entend, là, dans le milieu depuis que ça a été annoncé, c'est que ça prendrait quand même pas mal plus que ça, là.
Oui, parce que, tu sais, faut se rappeler quand même que dans les dernières années, là, les forces policières, ça a été compliqué, tu sais, au niveau de la gestion, là. Tu sais, les chefs de police, là, donc à Montréal, la SQ, tout ça, ça a nécessairement eu des impacts sur l'organisation générale. Il y a eu aussi des restructurations à l'interne. Donc, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. La ministre annonçait ça comme une mesure sans précédent, là. Donc, est-ce que c'est sans précédent dans les actions? On va le voir à l'usage, mais je pense que c'est une bonne nouvelle. La mixité, ça, c'est fondamental. D'ailleurs, il inclut aussi là, les forces policières autochtones, parce qu'on le sait, là, on n'en parle pas trop, mais ça passe beaucoup par les réserves. Puis à un moment donné, je pense qu'il va falloir comme adresser cette question-là de façon plus tangible, là, parce que tout le monde marche sur des œufs là-dessus. Puis l'autre aspect, puis là, c'est intéressant, ce soir à JE, il y a un reportage sur les balles qui se tirent à Montréal. Parce que, dans le fond, les gangs de rue ont plus peur. Donc, ils se promènent avec des guns dans les rues. Puis, est-ce que ça serait en raison du profilage racial dont sont souvent accusés les policiers? Donc, eux, comme personnes, finalement, ont peur, tu sais, d'agir. Et ça laisserait plus de latitude aux gangs de rue. Est-ce que c'est la seule cause? Certainement pas. Donc, c'est vraiment un ensemble de choses. Mais c'est certain que... C'est chacun avec Marc-André aussi que Geneviève Guilbeault, quand même, on sait pas sur les résultats, mais du moins, elle a l'air en contrôle de son ministère. Donc,
ben, elle a l'air en contrôle sur tous les dossiers. Elle est très, très bonne. Marc-André l'a dit, là, pour expliquer ses affaires, elle est déterminée. Ne serait-ce que sur le dossier de la violence conjugale, là, à un moment donné, quand à cette année, elle a pris les choses en main. Donc, on sent qu'il y a une volonté politique. On sent qu'elle veut aller de l'avant. Bon, évidemment, après ça, on va se frapper au test de la réalité, là. Mais c'est sûr que il y avait un problème à Montréal, là, puis moi, je vais être devant mon écran ce soir pour écouter le topo de JE, parce que je sais qu'il y a beaucoup de citoyens qui se posent des questions, des citoyens qui ont peur aussi, puis ça va nous permettre de nous poser des questions sur la culture des armes à feu aussi, parce qu'on l'a vu, là, il y a eu différents reportages là-dessus. Les médias sociaux contribuent à exacerber des violences pendant la pandémie. Puis j'ai eu des invités à mon émission pour venir m'expliquer ça. Là, étant donné qu'on pouvait pas se voir, ben ça se relançait sur les médias sociaux, puis ça a fait des escalades de violences qui se manifestent aujourd'hui dans nos rues. Donc, c'est quand même assez préoccupant. Puis il y a toute la question du profilage aussi. Là, à un moment donné, c'est un sujet qui est très, très épineux. Très, très tendu aussi, j'ai envie de dire. Là, on a vu aussi ce qui se passait du côté de Repentigny. Là. Ça va prendre mais pas mal ça, plus que de l'argent, là, tu sais.
Oui, c'est ça. C'est souvent plus que de l'argent, c'est plus que des ressources. Puis c'est d'aller au fond des affaires. Puis ce que j'ai aimé de Mme Guilbeault ce matin, c'est vraiment d'aller sur les gangs de rue. T'sais, on a eu un grand débat. On vient de sortir d'une élection fédérale là, qui n'a pas donné grand-chose dans les résultats. C'est la même chose, mais il y a eu un grand débat sur le contrôle des armes à feu. Mais pendant qu'on avait ce débat-là, on parlait pas de... Tu sais, tantôt, on parlait aussi de tout ce qui entoure aussi les armes illégaux. Ce trafic-là, faut l'attaquer, ce trafic-là. T'sais, ces gens-là, t'auras beau mettre 58 contrôles, si on va pas à la source du problème et si on pose pas les vraies questions, ben là, on passe à côté. Là.
Exactement. Bon, altercation, combat de coq. Non, je dirais pas ça comme ça parce que c'est une poule puis un coq. C'est pas des coqs. Marois Risky, là, qui est bon dans l'opposition en éducation pour le Parti libéral, on la connaît, très active sur les médias sociaux, très active aussi sur la question du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Je pense que c'est pas son meilleur ami. Je pense qu'il s'en cache pas, il le critique beaucoup. Mais là, je voulais qu'on ait un genre de petit débat. Là. Marois Risky a dit que Jean-François Roberge, s'il était un homme, une femme, il serait plus en poste. Elsie.
Oui, ben c'est ça. Donc,
c'est une grosse affirmation là, de dire que la politique, c'est un boys club.
Oui,
oui, effectivement. Puis oui, la politique, c'est un boys club à certains égards. Ça tend à changer, mais ça reste tout de même assez masculin. Mais bon, revenons à Marois Risky. Donc, le vendredi à l'Assemblée nationale, on peut faire des interpellations. Donc, l'opposition choisit un sujet. Puis donc, ils font un face-à-face avec le ministre, puis donc, ils échangent sur un sujet donné. Aujourd'hui, Marois Risky a interpellé le ministre Roberge pour différentes choses, tu sais, gestion de la pandémie, etc. Et elle arrive avec cette chose-là, à savoir que le premier ministre, finalement, a plus de patience envers M. Roberge et que si, puis là, elle le dit comme ça, si c'était Marie-France Roberge, ça fait longtemps qu'elle aurait sacré le camp, disons ça de même.
Oui.
Et ça pose des questions parce que deux choses. C'est, dans le fond, il faut parler de Jean-François Roberge, mais il faut aussi parler de la patience du premier ministre face aux femmes. Parce que rappelons-nous, il y a eu Marie-Chantal Chassé en l'environnement. Ça n'a pas été long. Là. Au début du mandat, après quelques mois, on lui a montré la porte parce qu'elle avait fait effectivement quelques erreurs. Elle n'était pas en selle du tout. Donc, bref, on n'a pas eu de patience pour trois semaines. On lui a dit bye-bye. Il y a eu Sylvie Damour aux affaires autochtones à qui on a dit bye-bye aussi, puis on a mis Lafrenière. On peut parler de Danielle Mécan, parce que Danielle Mécan gérait la santé. Il faut se rappeler que le mandat que Danielle Mécan avait eu, c'était de préparer les hôpitaux pour la COVID. Puis sur cet aspect-là, elle a rencontré ses objectifs parce que les hôpitaux étaient prêts.
Bon, hey, Elsie, tu me fais penser à Danielle Mécan. Là. Regardez juste, Elsie et Marc-André, la place que prend Christian Dubé au point de presse versus celle que prenait Mme Mécan.
Exactement.
On n'a jamais su pourquoi Mme Mécan est partie.
Non.
C'est quand il l'a changé. On a vraiment eu de vraies raisons. Là.
Sonia Lebel non plus, on l'a pas su en passant. Pas tant que ça.
Ouais, mais elle a eu une promotion quelque part, tu sais, en étant nommée au Conseil du Trésor. Puis, tu sais, on se rappellera qu'à l'époque, la gestion de la crise pandémique, c'était le premier ministre avec le docteur Horacio Arruda. Il y avait Jean-François Roberge et il y avait Danielle Mécan. Donc, heureusement qu'il y avait une femme. Donc là, il l'a tassé. Puis effectivement, on n'a jamais su les raisons. Puis ça, je sais que ça a été dur pour Mme Mécan d'ailleurs. Puis moi, je trouve que tu fais bien de le rappeler, Marc-André, parce que c'est vrai qu'elle avait pas d'espace. Puis c'est pas parce qu'elle avait rien à dire, je suis convaincue. Donc, tu sais, aujourd'hui, on est content du ministre Dubé. Puis on se dit, bon, le premier ministre a fait un bon choix. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça quand même assez ordinaire à l'époque, là, le déclassement de Mme Mécan. Puis là, il y a eu Marie-Ève Proulx. Donc, Marie-Ève Proulx, bon... On peut-tu reprocher au premier ministre de l'avoir tassé? T'sais, elle a eu des problèmes là, avec son personnel à multiples reprises. Donc, il y a vraiment une problématique grave là, où son personnel le tournait là, à l'infini. Donc, ça fait quand même plusieurs femmes, quatre femmes. Lui, il y a eu Nathalie Roy.
Oui.
Nathalie Roy est encore là, mais Nathalie Roy, quand même, elle a été tassée un peu des cercles de pouvoir. Puis en contrepartie, on a le trio d'hommes forts, donc économiques, Fitzgibbon, Girard, Boulet, qui sont, tu sais, des hommes forts du gouvernement.
Excuse-moi, puis Fitz, on lui a pardonné pas mal d'affaires au niveau de l'éthique.
Mal, oui.
Jean-François Roberge, on y pardonne des manquements. Mais je me fais l'avocat du diable. T'sais, Jean-François Roberge aussi, c'est il est dans les fondateurs de la CAQ aussi. Est-ce que
exactement.
C'est ça qui explique la patience du premier ministre?
C'est les deux dauphins. Jolin Barrette et Roberge, c'est les deux dauphins du premier ministre.
Ouais.
Donc, ils les aiment, c'est ces jeunes loups. Bon, je te laisse parler.
Ah, les jeunes loups!
Mais
je pense que c'est ça le problème.
Ils sont où,
les
jeunes loups? Il n'y en a pas. Il y a Geneviève Guilbeault. Quand même, Geneviève Guilbeault, vice-première ministre. Faut quand même lui donner, là.
Mais c'est ça, mais c'est là que je voulais aller. C'est que je pense qu'on sent qu'avec, tu sais, chez les femmes, tu sais, on sent que le premier ministre a beaucoup de respect. fait pour Mme Guilbeault. Hier encore, il a louangé beaucoup Mme Lebel sur les conventions collectives dans le réseau de la santé. Mais on sent qu'il y a une proximité avec quelques femmes dans son cabinet, mais pas la majorité. Et je pense que le problème avec Roberge, au-delà de son sexe, c'est que c'est un ami, il l'aime beaucoup, il y a une proximité avec lui, il est là depuis le début, tu dis les jeunes loups, effectivement. Fait que c'est plus difficile dans ce cas-là. Chaque chef, chaque premier ministre, il y a des gens dans son entourage qui aiment plus que d'autres. C'est normal, c'est la vie, tu sais. Fait qu'à partir de ce moment-là, je pense que c'est ça le problème avec Roberge. Parce que moi, au début de la pandémie, je trouvais que tout le monde était, on était dur avec M. Roberge.
Ouais.
Là, je pense qu'avec, au début, c'est OK, on est peut-être un peu dur, là, avec tout ce que vu, la ventilation, les ci, les ça, les contradictions. Là, je pense qu'on, M. Roberge est sur du temps emprunté, là.
En même temps.
C'est une question de sexe.
Plein de monde qui disent qu'il passera pas au travers de l'été, là.
Oui, mais tu sais, en même temps, là, c'est pas évident non plus parce qu'il a pris un réseau en lambeaux. Tu sais, puis ce matin à l'interpellation, il rappelait que les citoyens le manifestaient. Moi, je me rappelle d'avoir fait ça, peut-être aussi Geneviève. Tu sais, des chaînes humaines là, sur mon école publique, sauver mon école publique parce que les libéraux le sabraient tant et plus. Donc, tu sais, on a pris, il a pris un réseau là, qui est en lambeaux. Sur la pandémie, moi, j'ai le sentiment où, par moment, que la santé publique ne prend pas autant d'égards face à l'éducation que la santé. Donc, lui, il se retrouve souvent, là, pas de décision de la santé publique.
C'est lui le ministre, pareil. T'sais, à un moment donné, ouais, François Legault... Attends, ouais, François Legault nous l'a dit. Là.
Sa ventilation, c'est lui qui l'a échappé. Puis qui a
oui, inventé. Attends, c'est ben oui, ben oui, ben oui.
C'est pas commode, mais il l'a échappé, Robert.
Deux enfants. Ouais. Il s'est caché derrière la santé publique, mais à un moment donné, François Legault aussi dit, ben moi, je prends des décisions. À la fin de la journée, c'est moi qui prends les décisions. Donc, si c'était un ministre qui avait réellement du pouvoir, il pourrait prendre ses décisions aussi, là.
C'est sûr. Mmh. Mais quand même, tu sais, en tout cas, moi, je trouve qu'il faut quand même, là, il y a un aspect sur la santé publique, puis Horacio Arruda, là, qui est sérieusement, qui est complètement déconnecté de ce qui se passe dans les écoles. Puis l'autre élément, les écoles sont restées ouvertes au Québec. T'sais, donc ça, faut donner le crédit au ministre Roberge, au ministre de l'Éducation. Les écoles sont restées ouvertes, elles ont été fermées en Ontario, tant et plus. Donc, tu sais, je pense que quand le premier ministre se couche le soir, il se dit, ben, tu sais, mon ministre, il est chancelant, mais il est encore correct. Mais clairement, il y a un enjeu avec les femmes. Est-ce que c'est les femmes qui étaient pas assez compétentes? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un manque de patience? Mais clairement, il y a un enjeu. Tu sais, ça fait 4 femmes qui se font comme tasser.
Bon, ben en tout cas, ça fait réagir.
Bref, ça prend de la relève chez les femmes à la CAQ. Donc, il appelle à tous des femmes du milieu des affaires, d'un peu partout. Je pense qu'il va y avoir de la place aux prochaines élections si vous voulez être au conseil des ministres.
Je pense que oui. Elsie Marc-André, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi.
Merci.
Pour jasage et prise de position.